pouvoir élever nos voix au Seigneur, de pouvoir chanter. Nos répertoires sont remplis de chants qui nous permettent d'exprimer parfois ce qu'on n'arrive pas à exprimer avec nos propres mots. Et il nous rappelle tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et oui, tout à nouveau, ça renouvelle notre cœur, ça nous encourage à dire « Seigneur, ah, qu'est-ce que j'aimerais trouver encore des mots plus beaux ?» Mais Dieu soit béni parce que le Seigneur, ce n'est pas vraiment les mots qui l'intéressent, hein, c'est notre cœur. Et même si on n'arrive pas toujours à dire au Seigneur ce qu'on aimerait lui dire, ce qu'on souhaiterait lui partager, le Seigneur sait, c'est exactement ce que nous avons à partager avec lui. Et le Seigneur désire toujours et davantage nous encourager à le faire. Amen. J'aimerais prendre quelques instants juste pour rendre grâce encore au Seigneur pour sa miséricorde. À quelques-uns, si on peut élever notre voix au Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons partager ensemble un texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17. Et nous nous retrouvons avec l'apôtre Paul, qui est en voyage, et il se trouve à Athènes. Je ne sais pas combien d'entre vous ont l'occasion de visiter la Grèce. Alors imaginez cette ville qui était, je dirais, au comble de sa splendeur, un centre culturel, le centre de la philosophie, le centre de beaucoup de choses, beaucoup de religiosité, beaucoup, je dirais aussi, d'occultisme, il y avait un peu de tout. Et Paul se retrouve dans cette ville en train d'attendre ses compagnons de voyage. Et le texte nous dit, comme Paul les attendait à Athènes, il y avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui se rencontraient. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disaient « Il semble être un prédicateur de divinités étrangères, cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. » Alors ils le prirent, le menèrent à l'aréopage et dirent « Pourrions-nous savoir quel est cet nouvel enseignement dont tu parles ? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. » Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vois que vous êtes, à tous égards, extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes, il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race, ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, Dénis, l'aréopagiste, une femme du nom d'Amaris et d'autres encore. Amen. En lisant ce texte, je suis amené à faire quand même un parallèle à l'attitude de Jésus. Vous vous rappelez, Jésus se trouve avec ses disciples à Jérusalem, et d'un coup, ses disciples lui disent « Jésus, est-ce que tu as vu qu'est-ce qu'il est beau le temple ?» Et quelle a été la réaction de Jésus, sans rien enlever à la beauté de la sculpture? Mais Jésus n'était pas intéressé tellement par l'architecture de la ville, mais surtout par la situation spirituelle de la ville. Et Paul se trouve aussi dans une ville extrêmement réputée, connue, riche, où il y a beaucoup de connaissances. Et Paul, quand même, c'était un homme de culture. Il avait une certaine culture, il avait une certaine connaissance. Et pourtant, il n'était pas attiré par tout cela. Mais ce qui le mettait vraiment en souffrance, et le texte dit même il le exaspérait, c'était de voir comment cette ville était vouée aux idoles. En regardant ce qui veut dire être voué, ça veut dire à quelque part que la ville avait été offerte et mise sous l'emprise des idoles. Ça fait partie des vieilles pratiques qui sont encore présentes dans bien des lieux, encore aujourd'hui. Pas seulement pour les villes, parfois pour des pays, parfois même pour des personnes. À quelque part, ces personnes se rendent esclaves de quelque chose, et à partir de là, ils deviennent comme une marionnette qui sont là pour servir ce à quoi ils se sont voués. Et l'apôtre Paul voit tous ces hommes et ces femmes être attachés à de l'idolâtrie, et il y en avait énormément. Il y avait toute forme de culte, et parmi tout cela, il y avait aussi des Juifs. Certes, eux, ils n'étaient pas attachés à l'idolâtrie, bien évidemment. Mais quand même, comment faire la part des choses au milieu de tant de confusion? Il y a quelques années, je me suis rendu dans une île où les églises et les différents types d'églises étaient une à côté des autres. Et je dois vous dire sincèrement, c'était perturbant. Perturbant parce que les différents rituels se retrouvaient les uns à côté des autres et parfois à la même heure. Et je me suis dit comment quelqu'un qui passe à l'extérieur ne peut pas être confus en voyant tous ces types et toutes ces manières d'agir. Or on voit qu'en effet les hommes de cette ville et je dirais tous ceux qui étaient là de passage aimaient se retrouver pour discuter. Ils avaient même créé un auditorium, et moi je l'ai appelé l'auditorium du blablabla. Ils se retrouvaient, et le texte il le dit, en effet, pour apprendre des nouvelles. Et là, d'un coup, ils entendent que l'apôtre Paul parle de quelque chose qui sort de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Ils s'y intéressent. Et la réalité, c'est que beaucoup aujourd'hui ont soif de connaissances. Mais est-ce qu'ils ont soif de vérité? Parce qu'on peut avoir soif de connaissance et lire énormément, s'intéresser à tout. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas négatif. Tant qu'on arrive à faire la part entre la connaissance et la vérité. Parce qu'on peut tout connaître, mais est-ce que tout ce qu'on connaît, c'est une vérité? On est obligé à faire le tri tous les jours par rapport à tout ce qu'on nous dit. Est-ce que tout est vérité? Hein, on aimerait croire que tout est vérité. On aimerait croire dans ceux qui nous parlent, de ceux qui nous annoncent des choses, que c'est toujours la vérité. Malheureusement, avec le temps, on est obligé de se dire, parfois c'est des demi-vérités. Mais même si c'est une demi-vérité, c'est un mensonge entier, n'est-ce pas? Et ce n'est pas avec les mensonges qu'on peut avancer, s'approcher de Dieu, puisque Dieu est vérité. Et l'apôtre Paul, il est étonné, certainement il a dû visiter cette ville et être abasourdi, je dirais même attristé, parfois même dans une sainte colère en disant « Mais qu'est-ce que c'est tous ces idoles ?» Les premiers temps que je suis arrivé en France, j'ai été étonné, je dois être sincère, en 2000-2001, j'ai été étonné de voir dans les magasins la vente libre de beaucoup d'idoles. Et je me disais, mais comment est-il possible? Tu vas, t'achètes le pain, t'achètes les saucisses et tu t'achètes une statue. Tu mets dans ton chariot, tu rentres à la maison et tout va bien. C'est devenu quelque chose comme un produit de consommation. Et bien des fois, les personnes ne se rendent pas compte, en effet, de ce qu'ils ramènent chez eux. Et sous quelle autorité, sous quel pouvoir, je dirais, sous quelle puissance aussi, ils s'installent. Alors l'apôtre Paul, il veut annoncer une vérité. Et là, il retrouve quelque chose parce qu'ils avaient tellement envie de tout savoir et de tout avoir qu'ils avaient même créé une statue au Dieu inconnu. Tant qu'à faire. Ils se sont dit, si on les a tous, d'une manière ou d'une autre, on sera sauvés. Mais ce n'est pas le fait d'avoir des statues qui nous sauvent, c'est le fait d'avoir Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul commencera en se servant de ce moyen pour les interpeller. Alors ces hommes, ils lui disent, nous voudrions donc savoir que cela veut dire. Les Athéniens aimer savoir ce que les uns et les autres ont à dire. Beaucoup de philosophie. Et vous savez, ces derniers temps, on parle de beaucoup plus de philosophie. On en parle de plus en plus. Les gens s'intéressent à la philosophie comme si c'était une réponse pour finalement avoir une vérité. L'apôtre Paul est debout. Et il n'est pas question de partager de la connaissance religieuse, mais il est question de présenter une révélation divine. Et il leur dit, vous avez créé une statue au Dieu inconnu. Je veux vous parler de qui est le vrai Dieu. Le vrai Dieu est créateur de tout et tout dépend de lui. Beaucoup aujourd'hui suivent et cherchent une solution dans différents modes de fonctionnement. Et je suis sincère, en vous disant ça, je suis quand même étonné. Parfois, on n'a pas fait le tri et on n'a pas fait le ménage. On a gardé certaines habitudes, certaines visions des choses. On pense que ce n'est pas trop grave. Alors que pour Dieu, ça a de l'importance. Parce qu'à quelque part, tout ce qu'on donne aux autres, on a tendance à l'enlever à Dieu, n'est-ce pas? Qui est le créateur du ciel et de la terre? Amen. Alors on voudrait essayer de mettre en boîte la pensée de Dieu. Mais qui peut mettre en boîte la pensée de Dieu? Beaucoup pensent que Dieu est loin de sa créature, de sa création. Et ils ont disposé des lieux dans lesquels il faut aller. Si tu n'es pas là-bas, Dieu n'est pas avec toi. Et on voit l'apôtre Paul leur dire qu'en effet, Dieu est partout et il n'est pas loin. Il n'est pas loin de nous. Quelle révélation incroyable pour ces Athéniens de savoir que Dieu n'était pas loin d'eux. Eux qui pensaient qu'en effet les dieux étaient sur le mont Olympe, n'est-ce pas? Désintéressés des besoins des hommes, je dirais les hommes étaient comme des marionnettes entre les mains des dieux. L'homme a besoin d'entendre et comprendre que Dieu ne se sert pas de nous comme des marionnettes. Mais aux yeux de Dieu, nous avons une grande valeur. Et c'est ce qui fait que Dieu n'est pas loin de nous parce qu'il nous aime. Il s'intéresse à nous à chaque instant de notre vie. Et même quand nous, on a le sentiment d'être seul, en réalité, c'est nous qui nous n'arrivons pas à ressentir la présence de Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Parfois, on est tellement pris par nos raisonnements qu'on oublie la présence de Dieu. On est capable de passer à côté de tout ce qui nous annonce que Dieu existe et soutenir le contraire. Sommes-nous pas aveuglés? Sommes-nous pas enfermés peut-être dans quelque chose qui n'a aucune valeur? Certes, il y a des lieux qui ont un caractère artistique particulièrement intéressant, si on veut, mais dans laquelle Dieu ne s'y trouve pas. J'ai eu l'occasion de visiter des cathédrales dans laquelle, je dois être sincère, je n'ai pas senti la présence de Dieu. Il y avait tout, sauf Dieu. Pourquoi ? Parce que ces lieux étaient voués à quelque chose qui n'était pas Dieu. Et comment trouver Dieu là où en réalité on ne veut pas de Dieu ? Alors pour l'apôtre Paul, c'est quelque chose quand même d'incroyable. Il va sur un terrain inconnu et il va sur un terrain à quelque part qui n'est pas forcément acquis à l'évangile. Et il est là presque seul à apporter le drapeau de la vérité. Chose qui peut arriver aussi à nous, là où nous travaillons, dans le quartier où nous habitons, dans la ville où nous sommes. Il peut y avoir plein de pratiques. Et pourtant, Dieu nous a placés dans un endroit où on est seul à annoncer la vérité. Pourtant, l'apôtre Paul n'aura pas honte d'annoncer la vérité. Et je dirais qu'à quelque part, Dieu permettra même qu'il y ait un lieu bien préparé, un auditorium où Paul va pouvoir annoncer cette vérité. Parler de la vérité de ce qui est Dieu. Dieu n'est pas le fruit de l'inventivité des hommes. D'ailleurs, il le dira. Nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Certes, les hommes ont reçu de la part de Dieu des capacités artistiques incroyables, n'est-ce pas ? Mais pour autant, même si nous sommes dotés de beaucoup de capacités d'intelligence, on ne pourra jamais, jamais, par notre créativité en réalité, créer quelque chose auquel nous pouvons dire « ça, c'est Dieu ». Par contre, par ce type d'attitude, on peut s'attirer des problèmes. D'ailleurs, le peuple juif sorti d'Égypte, fraîchement même sorti d'Égypte, a voulu se faire une statue en disant « voilà le Dieu qui nous a sortis d'Égypte ». Et la parole de Dieu nous dit que ça fut une catastrophe. Certains font des étoiles, de la lune, du soleil ou toute autre chose, même des animaux. Ils en font un Dieu. Voire des personnes. Alors vous savez, l'idole n'est pas forcément quelque chose d'inanimé. Parfois, tout peut devenir idolâtrie. Même soi-même. On peut être tellement avec de la foi en nous-mêmes qu'on a fait de nous-mêmes un idole. N'est-ce pas ? Le Seigneur nous demande à quelque part de bien revenir avec, excusez-moi, les pieds par terre, tout en essayant d'amener nos pensées et notre tête dans le ciel. Pourquoi ? Parce que c'est là que Dieu habite, œuvre, et la terre n'est que le marchepied. Alors, la parole de Dieu nous dit, et l'apôtre Paul parlera d'une manière particulière à ces hommes qui prononçaient qu'on en tout connaître. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et ont eu lieu qu'ils ont à se repentir. L'apôtre Paul trouve les moyens de partager quelque chose qui est une réalité pour ce temps, mais encore pour aujourd'hui. Se repentir d'avoir suivi, d'avoir fait d'un idole quelque chose qui a pris autorité dans sa propre vie. Il m'est arrivé parfois de rencontrer des personnes qui étaient tellement attachées à leurs idoles, qui ont refusé le salut de Dieu. Quelle tristesse dans leur cœur, ils étaient malheureux, ils étaient touchés dans leur santé, touchés spirituellement aussi, et fortement, et pourtant, leurs idoles, mais il ne fallait pas y toucher. étaient devenus esclaves de quelque chose qui les rendait véritablement souffrants. Jésus nous invite à être dans cette action de la repentance. Quitter ce qui est idolâtrie. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon sa justice. Et ce jour est proche. Ce jour se rapproche. Je dirais même que chaque seconde qui passe, c'est une seconde en moins à ce moment où nous allons retrouver notre Dieu, notre Créateur. Alors, tant qu'on a du temps devant nous, on se dit on a le temps. Mais qui connaît le temps qui nous reste ? Et l'apôtre Paul souhaite donner à cette ville l'occasion de sortir de cet esclavage pour rencontrer le seul et vrai Dieu. Et rencontrer celui qui l'a envoyé, celui qui a ressuscité d'entre les morts, celui qui, à qui il a donné le droit de juger le monde entier, Jésus. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que il est question de choix entre philosophie ou la foi. Certains font de la foi une philosophie. Et moi, personnellement, je pense que la foi, ce n'est pas une philosophie. La philosophie, c'est des histoires et des raisonnements qui, très souvent, sont tournés, retournés dans tous les sens parce qu'il n'y a pas un fin. Mais la foi a un fin bien précis et je dirais un but bien précis qui est celle de nous amener à l'origine de celui qui nous a créés. La foi nous amène à Dieu. La foi nous rapproche de Dieu. La foi, c'est ce qui nous permet véritablement de rencontrer Dieu. Or, sans la foi, il est impossible, dit la parole de Dieu. Non pas d'une manière philosophique, mais quelque chose qui transforme les cœurs. Il y a quelques années de cela, j'ai rencontré un homme qui était venu pour la première fois à l'église. Cet homme était brocanteur. Et dans ses brocantes, il vendait des ouvrages, des livres. Et parmi tous ces livres, il avait des Bibles. Et un jour, un couple chrétien se trouve en train de passer auprès de son stand et voit ses Bibles et lui pose la question, est-ce que vous lisez la Bible, vous connaissez la Bible? Il dit, c'est un bel ouvrage. Et c'est très bien parmi mes ouvrages. Et cet homme, il parlait d'une certaine manière et il avait une certaine connaissance de ses ouvrages. C'était un homme qui aimait la culture. Et il aimait aussi les sous qui allaient avec la culture. Et ces deux chrétiens lui disent, mais comment vous faites à vendre quelque chose dont vous ne connaissez pas la puissance qu'il y a ? Il dit, si vous voulez connaître, ben, il faut venir à l'église. Et cet homme, pas seulement était intéressé par l'argent, mais aussi par la puissance. C'était quelqu'un qui versait dans certaines sciences occultes. Et intéressé, il est venu un dimanche matin. Il a écouté la parole de Dieu. Et à la fin du culte, il me demande un entretien. Moi, je ne le connaissais pas, je ne savais pas quelle était son histoire, quel était son parcours. Et cet homme, malgré tout, il pensait réellement dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il était, être quelqu'un de bien et quelqu'un qui aimait Dieu. Il avait un peu mélangé, il avait fait un peu sa religion à lui. Aujourd'hui, il y a un nom, ça s'appelle du syncrétisme. Hein, c'est un peu une soupe, une macédoine. Chacun l'a fait à sa manière. Ah, toi, tu crois comme ça. Ah, moi, je crois autrement. Mais c'est pas grave, on ira tous au paradis. C'est faux. Mais bon, philosophie. Non ? Tant que tu fais du bien et t'embêtes personne, tu iras au ciel. C'est sûr, c'est sûr. Tant que tu payes tes impôts, tu iras au ciel. C'est sûr. Bon. Certes, il faut payer ses impôts, mais c'est pas ça qui nous ouvre les portes du ciel. Et cet homme demande un entretien, cet entretien, il vient et commence à me partager certaines expériences qu'il avait faites. Et à un moment, le Seigneur me montre quelque chose sur sa vie et je commence à lui parler clairement, paf, 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 paf. Et du coup, Dieu montre que cet homme avait été un guérisseur, était appelé régulièrement pour barrer le feu, barrer les douleurs, Et lui pensait sincèrement dans son cœur que c'était un don de Dieu. Et il pensait cela parce qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu. Il s'était laissé entraîner par des philosophies de ce monde jusqu'au moment où, en réalité, en regardant ce que la Bible elle dit, il s'est rendu compte de l'erreur. Et ce jour-là, il a demandé pardon au Seigneur. Mais sincèrement. Et il a renoncé à toute cette vie du passé. En effet, quand la parole de Dieu, il nous parle d'être repentant, c'est aussi abandonner. Pas juste dire, oui, c'est vrai, j'ai mal agi. Mais il est question d'abandonner. Et cet homme, ce jour, il a pris la décision d'abandonner. Il vivait une vie un peu de patachon. Et pendant qu'il était sur la route pour entrer à la maison, il a senti dans son cœur qu'il devait mettre de l'ordre dans sa vie, de l'ordre dans son couple, de l'ordre dans ses affaires. Je le revois 15 jours après. Il me dit, vous savez, pasteur, je suis rentré à la maison. Et j'ai dit à ma concubine, on ne peut pas rester comme ça, ou on se marie ou on se sépare. Parce que maintenant, c'est Dieu dans ma vie. Elle m'a dit, j'étais un peu brusque. Je lui ai dit, oui, vous aurez dû lui expliquer un peu tout le parcours. Voire même la ramener avec vous pour qu'elle puisse aussi, elle, faire sa part de parcours. Elle dit, mais vous savez, ça a tellement transformé mon cœur, le fait de finalement comprendre ce que Dieu attendait de moi, que je ne pouvais plus attendre. Et moi, je me dis, quand Dieu rentre dans un cœur, Dieu nous remplit. C'est un vide que rien ne peut remplir si ce n'est Dieu lui-même. Et dans les semaines qui ont suivi, il a arrêté son affaire, il a détruit une quantité astronomique de livres, d'occultisme et tous les ismes qu'on veut. Il a vendu le reste et une certaine partie les a même fait cadeau pour que ça puisse aider des œuvres. Incroyable. Et il dit, je mets de l'ordre. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est marcher avec Dieu. Cet homme a donné son cœur au Seigneur et il a commencé à suivre Jésus. Il a compris que la véritable repentance, c'est un changement de direction. Dans ce que nous avons lu, nous avons vu aussi que certains, malheureusement, en entendant les paroles de l'apôtre Paul, ont agi autrement, ont préféré continuer sur leur chemin et chercher une autre philosophie, une autre histoire, peut-être une autre belle histoire, mais qui ne changera rien à leur vie. Mais Dieu soit béni parce que parmi ceux qui ont entendu, il nous dit parmi eux, Denis, l'aréopagiste, une femme du nom de Damaris et d'autres encore, suivir le Seigneur. La philosophie, ce manque de Dieu et de la foi. C'est ce que ces hommes ont fait, n'est-ce pas? Mais la foi s'appuie sur le message de la croix. La foi s'appuie sur la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Le message de la croix est la preuve réelle du prix payé pour notre salut et pour nous délivrer du joug ancestral. La foi qui s'appuie sur le message de la croix, aussi symbole de victoire sur le péché. La foi ou la philosophie. Nous pouvons continuer à croire aux belles histoires ou nous pouvons chercher la vérité. La parole de Dieu nous dit que c'est la vérité qui nous rend libres, qui nous a franchis. Vous vous rappelez, on a lu au début de ce chapitre, l'apôtre Paul était exaspéré de contempler cette ville qui était vouée aux idoles. Parfois, il y a des personnes qui ont voué leur vie aux idoles. Je pourrais vous raconter plusieurs témoignages de ce genre de choses. Mais finalement, ce qui est à retenir, c'est que quand ils sont venus au Seigneur, ils ont été libérés. Et c'est ce que le Seigneur veut nous accorder par l'œuvre de la croix, en effet lieu où notre délivrance a été finalement acquise au prix du sang de Jésus-Christ. Qui veut suivre la vérité? Oui? Mais vous savez que la vérité parfois nous met face à des choix, face à des décisions, face à des engagements. On ne peut pas rester, excusez-moi, avec un pied dans le chausson et un pied dans la chaussure. Vous êtes déjà sorti de chez vous comme ça? Essayez. Parfois, on vit comme ça. Un pied dans le chausson et un pied dans la chaussure. Vous ne croyez pas? Non? Il y a des jours où on veut rester pépère. On choisit le pied dans le chausson. Et des fois, on se dit, aujourd'hui, je vais à l'église. Et ils ont choisi le pied. Et une part d'eux est restée quand même... C'est une double personnalité, non? Certains aujourd'hui pensent que marcher avec Dieu, il faut adoucir les choses et les rendre plus conformes à notre temps. Ce que l'apôtre nous enseigne, c'est que le choix doit être fait une fois pour toutes. Vérifiez bien que nos deux pieds sont dans les bonnes chaussures. Parce que parfois, vous savez, on peut même choisir une chaussure d'une couleur, une chaussure d'une autre. Ça m'est arrivé. Un jour, je me rends compte, je suis sorti, j'avais une chaussure noire, une chaussure marron. À aucun moment, je me suis rendu compte de cela. C'était pas, j'étais bien dans mes chaussures. Mais une fois que je m'en suis rendu compte, je dois être sincère, j'étais mal à l'aise. Je ne voyais pas l'heure de rentrer à la maison. Et quand j'étais devant quelqu'un, je mettais un pied derrière l'autre, vous savez, un peu une pose un peu étonnante, pour cacher une des deux chaussures, en espérant que l'autre personne ne la voit pas. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai bien remis de l'ordre dans mes chaussures. Peut-être qu'il est temps de mettre de l'ordre dans vos chaussures, dans votre démarche. Qu'on soit déjà chrétien depuis X temps, ou que nous soyons en train de changer de direction de marche. Choisissons les bonnes chaussures. Faisons le bon choix, non pas les philosophies de ce monde qui nous amènent à des confusions pas possibles. Un jour c'est une chose, un autre jour c'en est une autre. Moi j'aime bien parce que ce que Dieu dit, c'était valable avant, pendant, après et pour l'éternité. On va incliner nos têtes et on va dire encore aujourd'hui au Seigneur, Seigneur, donne-nous de renoncer à tout ce qui n'est pas vérité, pour suivre ta parole qui est la vérité. Seigneur, que dans notre vie, il n'y ait pas de mélange. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, quelque chose qui fasse que nous ne soyons pas entiers à toi. Seigneur, certains ont pris une direction, mais ta parole nous dit que quelques-uns ont suivi la vérité. Merci, Seigneur, pour... ces hommes, ces femmes qui ont choisi de suivre la vérité. Merci parce que tu nous as présenté à nous aussi la vérité, Seigneur. Et nous aussi, on était sous le joug, on était sous l'autorité, sous la domination de bien de choses. Et tu nous as délivrés, tu nous as éclairés, Seigneur. Non pas par des beaux discours, mais par un amour et une grâce incomparables. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu invites chacun de nous, Seigneur, à marcher dans cette grâce, à vivre dans cette vérité, à ne pas accepter de compromis. Seigneur, ta vérité, elle est unique. Elle est, Seigneur, inchangeable. Elle n'est pas au gré des vents, mais elle est le fruit de ta volonté. Seigneur, donne-nous de vivre dans cette vérité. Et s'il y avait encore un reste de quelconque forme de philosophie ou de pensée humaine, charnelle, qui nous empêche, Seigneur, véritablement d'entendre ta vérité, alors, Seigneur, épure nos cœurs. Seigneur, rends-nous sensibles, Seigneur, et voire même, donne-nous le même sentiment de l'apôtre Paul. Être peut-être exaspéré de nous-mêmes, Seigneur, de ne pas arriver à faire le bon choix. Et Seigneur, là, venir à tes pieds et te dire, Seigneur, aide-moi, sois mon secours. Seigneur, merci parce que tu es celui encore qui agit dans le cœur de chacun. et tu es le seul qui puisse convaincre. Seigneur, convaincre de péché, convaincre de jugement, le seul qui puisse aussi accorder le salut, le seul qui puisse véritablement combler le cœur, c'est toi. Alors Seigneur, prends toute la place. Nous te prions Jésus-Christ. Amen.